Bonjour à tout le monde. C'est clair, quand on regarde les événements autour, quand on regarde les circonstances qui affectent la société actuellement partout sur la planète, on se rend compte que nous sommes entrés dans une période de temps instable, très instable, qui est incertaine. On sent que c'est une période de transition, là, comme entre deux mondes qui nous amènent d'une société différente. Et une période, bien sûr, de changement majeur dans ce sens-là. Et à nous qui connaissons le plan de Dieu, qui avons la responsabilité puis le bonheur de connaître les choses qui viennent, de connaître nos responsabilités, ça nous fait réaliser une chose. C'est que nous sommes face à un besoin de plus en plus pressant en ce qui nous concerne de nous attacher à la vérité biblique. Et de ne pas nous laisser digérer par tout ce qui se passe autour ou de ne pas nous laisser ralentir ou détourner par ces choses-là. Autrement dit, de garder le cap sur le grand but que Dieu nous a donné et qu'il est en train de réaliser sans faute. Voyez-vous, si on se laisse digérer ou détourner par les choses autour, qu'on se laisse inquiéter outre mesure, c'est qu'à ce moment-là, on est moins dans la préparation de ce qui vient. Et Dieu veut qu'on soit prêt. C'est pour ça qu'il nous a avertis d'avance des choses qu'on voit se réaliser sous nos yeux, pour qu'on sache qu'on doit rester proche de lui et rester prêt, qu'on conforme notre vie de plus en plus à la précieuse vérité qu'il nous a révélée. Donc, les yeux sur lui, les yeux sur Dieu, sur le Christ, et pas d'abord sur ce qui se passe autour, bien qu'on surveille de façon générale les événements. L'apôtre Paul, si vous vous reportez dans Romains chapitre 12, vous allez voir que l'apôtre Paul résume très, très bien ce que c'est la vie chrétienne. Ce à quoi je fais référence en décrivant la situation du monde actuellement et l'urgence qu'on a, nous, d'être proche de Dieu et de nous garder éveillés, de garder ce sentiment d'urgence dans la bonne façon de faire les choses. Romains 12, verset 1, un verset que vous connaissez très bien pour la plupart d'entre vous. Paul dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, il entre dans la définition de ce qu'est la vraie vie chrétienne. Je vais vous l'expliquer un peu davantage. Parce que on doit offrir nos corps, mais pas comme un sacrifice qu'on offrait dans l'Ancien Testament, là. C'est qu'on doit offrir notre vie, notre façon de faire les choses, notre façon de penser, notre façon de traiter les autres, nos rêves, que nos rêves soient sur Dieu par rapport à ce que lui a en tête pour nous. Allez, gardez votre place ici, mais allez au chapitre 6 de Romains, juste un peu avant. On va voir que Paul définit vraiment comment offrir nos corps. Comment offrir nos corps à Dieu. Romains 6, versets 12 et 13. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Là, on entre dans le sens de la fête des pains sans levain. D'éliminer ce qui est contraire aux voies de Dieu dans nos vies. Éliminer ces choses-là pour les remplacer par les voies divines. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché. Donc, cessez de pratiquer les choses qui sont contraires aux lois de Dieu, comme des instruments d'iniquité. Parce que lorsqu'on agit comme ça, notre corps devient un outil de péché, si vous voulez. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Mais vous, si vous pratiquez la justice, c'est que votre vie devient une offrande à Dieu comme instrument de justice. Vous l'honorez, vous le glorifiez, vous lui plaisez, vous faites sa volonté. Revenons à Romains 12, verset 1. Maintenant, allons au verset 2 qui va directement avec ce que je viens de vous montrer. Romains 12, verset 2. Il va plus loin. ne vous conformez pas au siècle présent. C'est quoi le siècle présent? C'est pas juste le numéro de l'année, là. C'est l'atmosphère du monde dans lequel on vit. Ne vous conformez pas à ce qui se passe autour de la société, à cette façon de vivre que les gens ont et qui est contraire aux lois de Dieu. Et on voit que les gens, à cause de ça, malheureusement, en souffrent de plus en plus. Et ça va aller en augmentant. Mais il nous dit quoi faire après. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que Dieu nous a révélé à notre intelligence les choses qu'on doit faire. C'est pour ça que notre intelligence ou notre compréhension, elle est nouvelle. Parce qu'il nous a montré la nouvelle voie à suivre. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, par la compréhension que Dieu vous donne, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Ce qui est bon, agréable et parfait. Alors voyez-vous, pour nous qui sommes appelés là, à cette époque-ci de l'histoire humaine, alors qu'on approche de grands événements majeurs où le Christ va revenir sur la terre pour établir le gouvernement de Dieu, il y a une absolue nécessité de discerner et de comprendre la volonté de Dieu. Et c'est le titre de mon message aujourd'hui, la volonté de Dieu. Vous savez, qu'est-ce qui se passe quand Dieu appelle quelqu'un? C'est la même histoire pour chacun des êtres humains que Dieu a appelé et qu'il appelle encore. Dieu suscite un intérêt dans le cœur de la personne. Il réveille un intérêt. Il lui montre un peu de la vérité. Il lui montre ses lois. Et ceux qui deviennent des chrétiens, selon ce que la Bible définit comme étant chrétiens, ce sont ceux qui vont plus loin, qui se mettent à vérifier dans la Bible ce que la Bible dit vraiment, et qui vont encore plus loin, qui se mettent à changer des choses dans leur vie, parce que leur entendement a été sensibilisé aux vraies voies de Dieu, et là, ils veulent en vivre. C'est ça. Alors, ils vont plus loin. Ils agissent en conséquence. Ils changent. Et ils prennent toutes sortes de décisions au fur et à mesure de leur vie courante pour plaire à Dieu, pour se conformer aux directives et aux exigences de Dieu. Et il y a toutes sortes de décisions qui sont prises à ce moment-là. Et parfois des décisions très, très difficiles, des choix à faire. Parce que quand on cesse de faire les choses qu'on faisait avant, avec les gens qui nous entourent, ben ceux qui nous entourent réagissent. Et pas toujours favorablement. Alors, c'est là qu'on a un défi à relever pour dire, est-ce que j'obéis à Dieu, à ce qu'il m'a montré, ou est-ce que je plais davantage à ceux autour de moi? C'est pas des décisions faciles, mais Dieu nous donne son aide quand on lui demande pour prendre ces décisions-là. Il y a des décisions énormes. Il y a des difficultés qui sont amenées par ça. Quelqu'un, par exemple, qui commence à observer le sabbat, il y a des réactions autour. Et certains ont même perdu un travail ou dû laisser un travail pour être capable d'observer le septième jour que Dieu commande de garder saint en ne travaillant pas. Alors, ça a été des décisions énormes. Il y a eu des difficultés, il y a eu des réactions autour des membres de nos familles, de nos collègues de travail, de nos amis, de nos collègues dans les écoles, parce que c'est arrivé à des jeunes et ça arrive encore à des jeunes dans l'Église. Alors, voyez-vous, il y a des obstacles qui se présentent là, mais ça fait partie de l'appel de Dieu et ça joue son rôle, comme on verra tantôt. Mais plus on met les choses de Dieu en pratique, plus on est encouragé et plus on devient convaincu. Et quand on compare ce que Dieu nous annonce comme devant venir bientôt, la libération de l'humanité, avec un gouvernement mondial dirigé par le Christ lui-même, quand on compare ça avec ce qu'on voit dans le monde, il n'y a aucune mesure de comparaison. Le vrai espoir, pas seulement pour nous, mais pour le reste de l'humanité, y compris pour les membres de notre famille qui ne sont pas appelés encore, parce qu'ils le seront un peu plus tard. Le seul espoir, c'est là. Le seul espoir, c'est là. Et quand on le comprend, ça nous motive, on devient de plus en plus convaincu et la conviction se développe. Résultat de tout ça, des changements majeurs dans notre vie. Parce que la loi de Dieu, elle concerne à peu près tous les aspects de notre vie, à tous les niveaux. Il y a des changements majeurs. Par exemple, dans les aliments, Dieu nous donne la liste des choses qu'on peut manger et celles qu'on ne doit pas manger, qui n'ont pas été créées pour être mangées. Alors, on commence à faire des changements, mais ça crée des réactions autour de nous. C'est là qu'il faut avoir la détermination puis la conviction de dire, Dieu me le demande, je vais le faire. Je vais aimer mon entourage quand même. Je vais leur expliquer, lorsque j'ai à expliquer les choses, avec douceur, avec calme, avec affection, mais je vais maintenir mes choix, mes décisions. C'est vrai pour tout. On a cessé, par exemple, de célébrer des fêtes comme Noël, avec la famille, avec les amis, et tout ça, ça a créé des réactions. On doit passer par là, on doit vivre ces choses-là. Dieu nous teste dans ce sens-là. Mais il y a des changements énormes qui se produisent dans nos vies. Alors, ça m'amène à réaliser qu'il y a des décisions qui sont parfois coûteuses, mais qu'on doit faire. Parce qu'on est poussé par une conviction que c'est la seule solution, non seulement pour le monde, mais pour vous et moi, individuellement, qui sommes appelés maintenant, de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle se résume en particulier dans ces 10 commandements qu'on s'applique à mettre en pratique. Et quand on s'applique à mettre en pratique ces lois, ces commandements et les autres lois qui y sont reliées, à ce moment-là, ça devient ce qu'on peut appeler la foi active. La foi active. La foi, c'est pas simplement croire que Dieu existe. C'est croire ce qu'il a dit et le mettre en pratique dans nos vies. Ça, c'est la foi active. C'est une vraie foi, celle que Dieu recherche absolument. Et Dieu bénit dans ce sens-là. Alors, je reviens à ça. Ce que Dieu veut voir dans vous et dans moi, et dans ceux que Dieu va appeler d'ici le retour de Christ, c'est justement une foi active. Pas juste croire que Dieu existe. Croire ce qu'il dit et mettre en pratique ce qu'il dit au mieux avec son aide. Et quand on fait sa volonté et Dieu bénit en conséquence. Dieu bénit en conséquence. On peut en avoir l'absolue assurance. Même si nous ne savons pas comment les choses vont se développer, ni comment les choses vont se terminer. Parce qu'il y a souvent des situations dans votre vie, comme dans la mienne, où on se demande comment les choses vont se terminer. Mais si on est proche de Dieu, Dieu est avec nous et Dieu pourvoit. Il y a des promesses extraordinaires dans la Bible là-dedans. Je vais vous donner un exemple qui est très fort à ce sujet-là. Allez dans Daniel, le 3e chapitre. Daniel, 3e chapitre. Un exemple qui nous montre que parfois on est placé devant des défis incroyables et que c'est payant d'obéir à Dieu, même si ça nous coûte quelque chose. Et parfois, on n'en est pas délivré maintenant. Parfois, Dieu permet qu'on aille plus loin dans une épreuve même, pour nous amener justement plus loin au développement de son caractère. Mais regardez ici l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Face à la fournaise ardente, ils étaient menacés de mourir dans le feu s'ils refusaient d'adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait fait ériger. Ça, c'est une histoire frappante dans le sens que quelqu'un qui a des convictions et qui ne fait pas de compromis. Là, bien sûr, c'est une situation extrême. Ça ne veut pas dire que ça va arriver à tout le monde, mais il y a des situations semblables à ça qui nous arrivent parfois. Et il y en aura en cours de route encore. Alors, Daniel, chapitre 3, regardez le verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Et après, il a donné l'ordre à tout le monde que lorsqu'il y aurait une musique qui jouerait, tout le monde était obligé de se prosterner devant cette statue d'or. Regardez le verset 6. Verset 6, il dit, « Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même, au milieu d'une fournaise ardente. » C'est quelque chose, là. Mais pour ceux qui sont menacés de ça, c'était le cas de ces 3 jeunes juifs-là qui avaient été amenés prisonniers et qui étaient à la cour du roi. Le risque, c'était de perdre leur vie s'ils faisaient compromis, s'ils adoraient cette statue. Mais s'ils adoraient la statue, ça voulait dire une chose, qu'ils rejetaient le vrai Dieu. Ça, c'est la réalité qu'il y a derrière le choix en question. Alors, c'était le risque. Regardez maintenant le verset 12. Or, il y avait des Juifs qui, ici, je fais une petite pause, verset 12, c'est que les Chaldéens, qui étaient autour du roi, qui faisaient partie de sa cour, ont dit, il y a des Juifs là qui obéissent pas à ta directive, Nabuchodonosor, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Regardez le verset 16. À la fin du verset 16, c'est-à-dire le verset 15, à la fin du verset 15, ici c'est Nabuchodonosor qui dit à nos trois jeunes Juifs, « Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Emmenez-le, votre Dieu. Quand vous serez dans le feu, vous allez voir. Alors, situation extrême. Comme je vous dis, ça n'arrivera pas à tout le monde. Mais ça peut arriver à certains d'être placés devant des choix extrêmes aussi. Et regardez ce qui arrive par la suite. Versets 16 à 18, comment ces trois jeunes hommes qui connaissaient le vrai Dieu, qui connaissaient la loi du vrai Dieu et qui avaient décidé de ne pas faire de compromis. Regardez leur réponse. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Alors, ils mettent l'accent sur la puissance du Dieu qu'ils servent. Mais ils vont plus loin. Là, ils disent, Dieu va nous délivrer. Mais verset 18, sinon, donc si Dieu décide de ne pas nous délivrer et qu'on doit mourir dans la fournaise ardente, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas ta statue d'or que tu t'es élevée. Alors là-dessus, le roi a été en furie. Les a fait jeter dans la fournaise, aller au verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté les trois Juifs. C'était chauffé à blanc au maximum pour vous donner une idée qu'il n'y avait pas de possibilité de sortir vivant d'une telle situation. Mais les trois jeunes hommes étaient prêts à mourir si Dieu décidait que c'était leur sort. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Verset 24. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé. Il s'est passé quelque chose là qui l'a ébranlé. Il se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés, trois hommes attachés? » Ils répondirent, « Certainement au roi. » Le roi reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien, pas attachés, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Il n'était plus seulement trois, il était quatre. Il y en avait un quatrième au milieu d'eux que Nabuchodonosor n'avait pas jeté dans la fournaise, mais auquel les trois petits Juifs avaient rendu témoignage le Dieu Tout-Puissant. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Donc, le quatrième avait une apparence différente. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha à l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. » Là, il sentait qu'il se passait quelque chose. Là, il réalisait, « Serviteurs du Dieu suprême, sortez, venez. » Et on voit à la fin de l'histoire, au verset 30, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Alors ici, vous avez une situation extrême où on est mis devant le fait suivant, où on tourne le dos à Dieu et on perd tout, notre vie éternelle en ce qui nous concerne, nous, ou bien on est prêt à aller au bout, si on doit aller au bout, mais Dieu intervient pour le mieux, d'une façon ou de l'autre, quelle que soit sa décision. Alors, c'est une situation extrême de conviction et de foi active. Mais vous savez, pour en arriver là, il y a un truc tout petit. C'est de ne pas faire de compromis dans les petites choses. À mesure que les petites choses se présentent, de ne jamais faire de compromis avec la loi de Dieu. ne jamais faire de compromis avec la loi de Dieu. Même si personne ne nous voit, même si ça semble sans conséquence, ne pas faire de compromis. Si je donne ma parole, je la respecte. Si je dois respecter les gouvernements des hommes, je les respecte. Si je dois payer de l'impôt au gouvernement, je ne triche pas sur l'impôt parce que Dieu dit « Rendez à César ce qui est à César. Rendez au gouvernement humain ce qui est au gouvernement humain, ce que vous lui devez. Faites-le honnêtement. » Et même si vous pouviez cacher quelque chose, ne le faites pas parce que vous ne pouvez pas le cacher au Dieu suprême qui, lui, veut voir où est votre cœur. Si vous appréciez faire sa volonté et si vous tenez à la faire. Dieu est Dieu. Si nous faisons sa volonté, pas besoin de nous inquiéter, quelles que soient les circonstances. Dieu promet la paix d'esprit à ceux qui lui obéissent. Non pas une vie sans difficulté, sans défi, sans problème, sans obstacle, mais une paix d'esprit malgré les épreuves. Alors, il s'agit de chercher ce qui est agréable à Dieu et d'agir en conséquence. Il faut savoir dans tout ça, et c'est important qu'on le voit comme il faut, c'est que on n'est pas à part de Dieu et à part de son appel. Dieu nous a appelés et il travaille avec nous. Et en travaillant avec nous, lui, ce qu'il a à l'esprit, c'est de développer notre caractère, nos capacités de faire les bons choix avec son aide, avec les promesses de nous soutenir jusqu'au bout. Alors, c'est avec lui. Et c'est pour ça qu'il faut savoir que Dieu nous met au test. Dieu nous met au test. Par toutes sortes de circonstances, Dieu met au test tous ceux qui l'appellent. Il a fait ça avec les Israélites. Il les a mis au test après qu'il les a libérés d'Égypte, après les 10 grands miracles qu'il a fait pour les libérer d'une situation sans issue. Et il les a mis au test de différentes façons. Pas longtemps après, vous savez l'histoire, ils sont arrivés, il a manqué d'eau pour un petit peu de temps. Et là, tout de suite, ils s'en sont pris à Moïse, ils ont voulu même lui faire du mal et tout ça. Ils ont accusé Dieu. « Tu nous as emmené mourir ici au désert » et tout ça. Ils ont oublié déjà Dieu et son pouvoir et sa puissance. Ça, c'est malheureux. Et cette génération-là qui s'est détournée de Dieu, qui a critiqué Dieu, qui l'a accusé comme ça, Dieu a dit « Vous voulez pas entrer en terre promise? » Vous vous rappelez, il avait envoyé 12 espions explorer la terre promise où ils devaient entrer. Et quand les espions sont revenus, il y a juste Josué et Caleb, des 12, qui ont fait un bon rapport en disant « Le pays est formidable. OK, il y a des obstacles, mais Dieu va nous donner la victoire. » Alors que les 10 autres ont eu peur, ils ont dit « Non, il y a des géants, on ne pourra pas. » Ils avaient oublié la puissance de Dieu. Le « pourra pas », ça n'existait pas là, à cause de la puissance de Dieu. Alors Dieu a dit « Vous n'avez pas voulu entrer, vous n'y entrerez pas. Vous allez aller au désert et vous allez mourir au désert. Et ce sera l'autre génération qui va entrer, vos enfants. » Et c'est ce qui est question de ça ici quand vous allez voir dans Deutéronome chapitre 8. Ça vaut la peine qu'on regarde ça. Deutéronome chapitre 8. C'est un rappel de la volonté de Dieu. Quelle est sa volonté? Il l'a exprimé à cette nouvelle génération-là qui entrait en terre promise. Deutéronome 8, verset 1. Ça, c'était la deuxième génération, là, les enfants de ceux qui étaient morts au désert. Il dit, « Vous observerez, verset 1, et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Pour vous rendre malheureux? Non. Afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, mais dont ils se sont disqualifiés par leur attitude. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. » Il y avait un but à ça. Afin de t'humilier, c'est afin de te faire réaliser que sans Dieu, tu n'es rien, que tu as besoin de lui pour tout et que tu dois lui faire entière confiance, que tu dois développer cette relation avec lui, afin de t'humilier et de t'éprouver, de te tester pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements, quelles que soient les circonstances. C'est ça, pour voir ce qu'ils allaient faire, pour voir ce qu'ils feraient devant les difficultés, devant les obstacles, devant les imprévus. Et là, je fais une petite parenthèse. comme nous aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit au début de mon message qu'on est entré dans une période tout à fait différente, une période d'incertitude, de bouleversement. Et nous, on est entré actuellement dans une période de difficultés et d'obstacles imprévus, des situations qu'on ne connaissait pas avant. Comme les Israélites qui sont sortis d'Égypte ont affronté des situations qu'ils ne connaissaient pas avant. Et la leçon pour nous, que les Israélites nous ont appris en manquant leur coup, c'est de rester nous attachés à Dieu et de nous fier que Dieu va nous amener à bon terme, qu'il va terminer l'œuvre qu'il a commencée et que le monde va changer bientôt parce que le Christ va revenir. Alors, nous vivons à cette période-là, une période tout à fait différente de celle d'avant. Et si vous êtes comme moi, j'ai pas l'impression qu'à partir de maintenant, on peut penser revenir comme avant la pandémie. On ne reviendra pas à une période de temps comme avant la pandémie. Et on ne reviendra pas non plus à une période de temps comme avant la guerre de Russie et d'Ukraine. Il y a tellement de choses de brisées et qui s'en vont dans une autre direction. Et on ne reviendra pas non plus à une situation économique comme avant. Et elle va se détériorer très bientôt d'une façon beaucoup plus importante qu'elle s'est détériorée jusqu'à maintenant. On ne retrouvera plus la situation d'avant. Alors nous, notre cœur doit être en direction de Dieu. Et on doit se préparer, mettre l'important là-dessus. Ne pas s'inquiéter outre mesure de tout ce qui se passe, mais de s'inquiéter de notre condition personnelle, spirituelle, par rapport à Dieu. Parce que Dieu nous permet à nous des déserts spirituels, comme celui dans lequel nous entrons maintenant, où on est totalement dépendant de lui. On commence à le réaliser un peu plus. On est totalement dépendant de Dieu pour l'air qu'on respire, pour l'eau qu'on peut boire, pour la nourriture qu'on peut absorber, pour la compréhension des événements et pour l'espoir merveilleux de ce qu'il nous montre. Nous sommes dépendants de lui entièrement pour tout ça. Mais c'est un bon papa qui encourage ceux qui veulent faire sa volonté. Mais il nous teste pour voir comment on va réagir, pour voir ce que nous avons dans le cœur, pour voir ce qu'il y a en dedans de nous. Vous savez, c'est facile d'être chrétien. J'arrête pas là. C'est facile d'être chrétien ou c'est facile de faire le bien quand tout va bien, quand il n'y a pas de problème, quand il n'y a pas de difficulté, quand il n'y a pas d'obstacle, quand il n'y a pas de gens qui sont contre vous, qui vous trouvent bizarre d'agir comme vous agissez, c'est facile. Mais quand il y a des obstacles, quand il y a des hostilités, quand il y a des situations plus difficiles, quand il y a des situations inquiétantes, quand il y a des changements majeurs, là, ça devient plus difficile. Et c'est là qu'il faut davantage être chrétien, c'est-à-dire être proche du Christ, lui demander son aide, lui demander de vivre en nous. Et là, je me rappelle le fameux verset que M. Meredith rappelait souvent. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ça, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est celui qui était présent avec nos trois jeunes juifs dans la fournaise. Le quatrième qui avait l'apparence d'un Dieu selon Nebuchadnezzar. C'est lui qui est avec nous, si nous sommes avec lui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de lui. Question. Comment est-ce que je réagis quand je veux mettre la loi de Dieu en pratique, mais quand il y a des hostilités, comme je vous parle? Comment est-ce que je réagis dans ce cas-là? Faut y penser d'avance, puis il faut faire notre lit d'avance. Faut établir les paramètres de ce qu'on va faire pour se préparer avec l'aide de Dieu. Comment est-ce que je réagis quand il y a de l'hostilité, quand il y a de l'obstacle, de l'opposition, quand il y a des pressions contraires? Ou quand je me sens seul, isolé, que je suis le seul, par exemple, de mon bloc appartement, ou seul de ma région, ou seul de ma famille, ou seul de mon entreprise où je travaille, à vivre comme je vis différemment de ce que je vivais avant. Il y a un aspect de solitude qui est un test en même temps. Parce que c'est pas une solitude totale. Parce qu'on est en contact avec celui qui était avec nos trois jeunes juifs et qui veut nous aider. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et là, je dois lui demander, le supplier d'agir en moi, de m'aider à réagir comme lui réagirait s'il était à ma place. Et justement, il la prend à ma place. C'est ça que Galates 2, verset 20 dit. Le Christ prend la place en nous si on le laisse prendre la place, si on lui demande et qu'on met en pratique les choses qu'on doit mettre en pratique. Autre question, qui fait partie de l'examen de soi pour se préparer aux fêtes aussi, en tant que chrétien par rapport aux lois divines, qu'est-ce que je fais quand personne ne me voit? Qu'est-ce que je fais quand personne ne me voit par rapport aux lois divines? Est-ce que je ne fais pas de compromis ou si je suis porté à faire les coins ronds? Faut pas que je fasse de compromis. Parce que ça, à ce moment-là, quand je suis seul totalement, que personne ne me voit, tout ce qui se passe entre moi et lui. Et c'est là que tout se joue. C'est envers lui que je dois avoir entière fidélité. Autre question. Reportez-vous pendant ce temps-là à Romains, chapitre 5, s'il vous plaît. Le livre de Romains, chapitre 5. Autre question que je vous pose. Est-ce que nous obéissons de plus en plus à Dieu de cœur, avec cœur, parce qu'on veut lui plaire, parce qu'on veut réjouir notre Père, parce qu'on veut l'honorer, le glorifier, le remercier, être affectueux envers lui? Quand on vient à l'Église au début, je ne sais pas si vous êtes comme moi, si je me rappelle bien au début, quand on a commencé à voir les prophéties qui allaient venir, la fin du monde et ces choses-là, on a eu peur. On avait peur. Et là, ça nous a motivés à vouloir changer, hein? Ça l'a aidé. C'est pas mauvais. Sauf que ça doit pas rester notre motif. C'est que ça doit se transformer. Plus on voit l'amour de Dieu, plus on comprend son plan, plus notre raison d'agir selon ses lois ne doit pas être basée sur la peur, mais sur l'amour de Dieu. Pour l'honorer, pour le réjouir, pour lui plaire, pour faire sa volonté. Et quand quelqu'un fait sa volonté, notre Père est content. Et ça développe un lien de confiance extraordinaire. Est-ce qu'aussi, autre question, est-ce que je cherche d'abord à plaire à Dieu ou si je cherche à plaire à ma famille, mes voisins, mes collègues, mes amis ou les gens autour, les voisins? Dieu veut savoir. Dieu veut absolument savoir. Et Dieu nous teste comme il a testé Israël. Romains, chapitre 5, regardez la fin du verset 2. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. On peut dire autrement, nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, elle nous sera donnée si nous sommes fidèles jusqu'au bout, si nous continuons à nous purifier, à nous préparer pour le retour de Christ. Il dit, nous nous glorifions ou nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu, de la voir même la gloire de Dieu, d'être face à face à lui quand nous serons transformés en êtres spirituels. Et regardez le verset 3. Bien plus, nous nous glorifions ou nous nous réjouissons même des afflictions. Et Dieu permet les afflictions pour les raisons que je vous ai données tantôt. Pour qu'on apprenne à compter sur lui, quelles que soient les circonstances, pour qu'on apprenne à lui rester fidèle, quelles que soient les circonstances. Pour pas qu'on se laisse décourager par l'adversaire en pensant « Dieu ne m'aime plus parce que j'ai des difficultés à rencontrer ». Non, les difficultés sont là justement parce qu'il m'aime et qu'il veut que j'aille plus loin dans mon cheminement spirituel. Bien plus, nous nous réjouissons même des afflictions. Et le mot ici, « affliction » dans la King James, dans la version du roi Jacques, et dans le texte original, c'est tribulation. C'est tribulation. Ça se rejoint les deux sens, là, affliction et tribulation. Mais c'est tribulation, épreuve, défi ou test, ou les pressions environnantes autour de nous. Parce que quand on vit, comme je mentionnais tantôt, selon les lois de Dieu, il y a des pressions qui s'exercent sur nous par ceux autour de nous. Il faut, avec sagesse, rester ferme sur nos convictions, comme Dieu nous demande de faire. Dieu dit pas nulle part. Dieu dit nulle part qu'on va être épargné de toutes les tribulations ou de toutes les épreuves ou de tous les stress possibles. Absolument pas. Nulle part. Au contraire, il les permet. Il les permet. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Paul dit à un moment donné, c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations, parce que ça a un rôle à jouer. On n'aime pas ça, on cherche pas ça. Mais faut être conscient que quand ils viennent, faut les prendre avec l'aide de Dieu pour passer à travers, parce que ça va nous mener plus loin. D'ailleurs, détresse, cette détresse-là ou tribulation, il y en a une énorme qui s'en vient. La grande détresse que la Bible décrit. La plus grande de toutes les tribulations. La plus grande de toutes les détresses. Mais Dieu a une promesse extraordinaire pour ceux qui, en ce moment, mettent leur vie au service de Dieu pour soutenir l'œuvre, pour se préparer, pour développer le caractère de Dieu, pour faire les sacrifices qu'il faut, c'est que Dieu va les protéger quand la grande guerre s'étendra sur toute la face de la terre. Je vous le lis, pas besoin de vous y reporter, vous irez voir dans Apocalypse 3, verset 10. Apocalypse 3, verset 10. Voyez ce que Dieu dit à ceux qui cherchent en ce moment à faire sa volonté. Quelles que soient les circonstances, qui s'appliquent à rester fidèles, qui sont pas parfaits, mais ils font leur possible, ils demandent pardon à Dieu quand ils se trompent et tout de suite ils changent de côté et ils demandent son aide pour faire mieux. Et regardez ce que Dieu dit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Donc, parce que tu as persévéré malgré les obstacles, malgré le stress, malgré les inconforts, malgré les éléments surprises qui arrivaient ou les éléments décourageants, tu as persévéré à garder ma parole, c'est-à-dire à ne pas faire de compromis, mais à vivre selon les lois que je te donne. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai, je te protégerai aussi à l'heure de la tentation, à l'heure de la détresse, à l'heure de la tribulation, de la grande tribulation, le test suprême pour toute l'humanité, qui va venir sur le monde entier. On est frappé actuellement de voir l'ampleur que prend la guerre qu'on voit à nos écrans. Mais quand vous imaginez que ça va s'étendre à un moment donné au monde entier, on comprend pourquoi Dieu dit « il y a un temps qui vient où la détresse sera jamais vue auparavant », comme c'est marqué dans Matthieu 24. Et c'est ce qui approche. Mais Dieu dit, pour cette période-là, ceux qui auront cherché à faire ma volonté, je vais les mettre dans une catégorie à part et je vais les protéger de ce qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Absolument. Regardez le verset 3 maintenant. Bien plus, nous nous glorifions ou nous nous réjouissons même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Mais oui, s'il y a quelque chose qui vous afflige, qui m'afflige, qui est une difficulté, mais que je tiens à vivre selon les lois de Dieu, malgré ça, qu'est-ce qui se passe dans moi? C'est que je deviens persévérant, je tiens le coup. Malgré ces choses pas plaisantes, difficiles, contraires, que je ne cherche pas, mais que j'ai, mais que je dois traverser pour être capable d'aller plus loin dans ma préparation. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Plus on passe de petits tests comme ça, plus on est capable d'en passer de grands. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et quand vous regardez encore ici la King James Version, la victoire, c'est caractère. Et c'est ça que Dieu veut voir en nous. Dans les circonstances qu'on a à vivre, Dieu veut voir qu'on développe son caractère avec son aide, qu'on voit les choses là, dans sa perspective, qu'il est en train de nous préparer pour former une équipe qui va libérer bientôt l'humanité, qui va guérir les nations, les consoler, les enseigner, les encourager, leur montrer les vraies lois de Dieu. C'est ça. Et si on développe cette persévérance-là, ça prouve à Dieu qui nous sommes en train de devenir. Et ça aussi, ça le réjouit, parce que c'est le but qu'il a pour nous. Et si on le fait, ça le réjouit. Et plus on persévère, plus notre espoir grandit. Oui, parce qu'on réalise des progrès qu'on fait. Et des fois, on manque, et des fois, on réussit. Et quand on voit qu'on persévère dans des circonstances difficiles, comme je sais qu'actuellement, plusieurs dans l'Église persévèrent dans des circonstances extrêmement difficiles, c'est qu'à ce moment-là, vous faites des progrès. Et vous le sentez. On en parle de temps en temps. Vous le sentez, vous le voyez. C'est impossible ce que vous faites de passer à travers ce que vous passez à travers. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui vous tient, qui vous soutient. Et plus vous avez cette persévérance-là, plus vous êtes capable d'avoir de persévérance. C'est un encouragement qui se développe en vous. On goûte ces encouragements-là de façon extraordinaire. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. C'est absolument sûr. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est seulement par la puissance du Saint-Esprit qu'on peut arriver à vaincre, qu'on peut arriver à développer le caractère de Dieu. Voir et faire ce qui lui est agréable. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 5. Et on va lire les versets 10 et 11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ça rejoint à trouver quelle est sa volonté, puis la faire, hein? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, à toutes les méchancetés auxquelles on prenait part avant et qui ont cours dans le monde autour de nous. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Pas parce qu'on accuse les gens, tout ça, mais on les condamne dans le fait qu'on cesse de les faire et qu'on vit autrement. Ça devient comme l'exemple d'une condamnation parce qu'on a rejeté ce qu'on faisait avant. On ne l'aimait plus, on l'a mis de côté. C'est très clair et c'est très encourageant. Maintenant, quelles sont ces œuvres-là des ténèbres qu'on doit rejeter? Paul le précise juste un peu avant. Regardez le verset 3 à 6. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, la convoitise, ne soit même nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints, à des gens qui sont appelés et qui sont mis à part par Dieu. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques. Pas d'histoire à double sens, ce genre de choses-là. Ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient plus. Ceux qui avaient tendance à le faire avant l'éliminent de leur vie. C'est ce qu'il dit ici. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, des remerciements. Car sachez-le, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ça, ce sont les œuvres des ténèbres à rejeter. Et ils disent que vous et moi, nous étions avant. Ils parlent de nous, là, au verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Chacun de nous. Parce qu'on ne s'occupait pas des lois de Dieu. Absolument pas. On faisait ce qu'on pensait. Comme c'est marqué dans le livre des juges à la fin, là. Chacun faisait comme bon lui semblait. C'est ça. Et on se pensait toujours meilleur que l'autre génération. Hein. Nos parents ne savaient rien, nous autres, on avait appris quelque chose. Nos parents ne savaient pas ce que c'était l'amour. Hein. Nous autres, on l'avait appris. Eh oui, à 16-17 ans, on le savait, oui. Nos parents ne savaient pas, d'après nous autres. Après, on change de perspective. Mais on était dans ce monde de ténèbres. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Pourquoi on est lumière dans le Seigneur? Parce qu'il nous a montré le chemin de lumière, le chemin qui mène vers la vie éternelle. Comment faire pour être vraiment heureux, pour honorer Dieu et rendre les autres heureux autour? Marcher comme des enfants de lumière. Et ça rejoint encore ce qu'on doit faire au moment de la fête des pains sans levain, bien sûr, mais tout au long de l'année. Allez à 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens. Chapitre 5. On va lire le verset 21 et 22 qui se rapporte exactement à ce que je vous explique. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Examinez toutes choses, à commencer par nous, par rapport à la loi de Dieu. Retenez ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est la volonté de Dieu. Okay? Retenez ce qui est bon. Et regardez le verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et c'est intéressant parce que la version anglaise est plus claire que la version française ici. Ça dit, abstenez-vous from all appearance of evil. Abstenez-vous non seulement de tout mal, mais même de l'apparence du mal. Même si quelque chose n'est pas mal, mais que ça donne l'apparence du mal, il dit, ne faites pas ça pour donner mauvaise impression à d'autres aussi autour. OK? Ça va loin. La vie chrétienne, elle est subtile et elle est profonde. Ça couvre tous les aspects de notre vie. Alors, au milieu d'une épreuve, on ne sait pas comment ça va finir. Hein? Quand il arrive un problème majeur ou une épreuve qui nous frappe, on n'a pas la réponse tout de suite et on ne sait pas comment ça peut finir. Et ça peut finir de toutes les façons imaginables. Mais le plus important, c'est que je sois proche de Dieu dans ça. Absolument. Parce que Dieu, il est réel. Et si vous êtes là à l'Église, c'est parce que lui vous a appelé. Et c'est parce qu'il est en train de travailler avec vous pour vous amener à terme. Et ce qu'il veut, c'est que vous soyez bien et que vous réussissiez le but principal de votre vie. Et il va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour ça, même le support au milieu des larmes que vous pouvez verser lorsqu'il y a des pertes ou des difficultés qui se présentent. Parce qu'il est fidèle. Non seulement réel, mais fidèle. Et il vous a pas appelé pour le rien. Il vous a pas appelé, comme M. Appartient nous disait souvent, Dieu ne vous a pas appelé pour que vous manquiez votre coup. Dieu vous a appelé pour que vous réussissiez. On a des choses à faire. Si on fait ces choses-là, Dieu va faire le reste pour qu'on atteigne le but. On ne sait pas toujours comment réagir, mais il y a une façon de réagir. Allez à Jacques, chapitre 1. Ça, c'est une petite clé que je vous donne puis que j'ai besoin de pratiquer régulièrement dans toutes les circonstances difficiles. Ou quand il y a des questionnements ou des choix durs à faire, bien sûr, on peut consulter le ministère, ce qui m'arrive de faire aussi, et à vous également. Mais regardez dans Jacques 1, le verset 5, qu'est-ce qu'il nous a dit? « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui ne sait pas comment réagir, ou qui réagit mal, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. » Dieu ne nous reproche pas de ne pas avoir de sagesse. Il sait qu'on n'en a pas. Le problème, c'est que nous, on pense en avoir des fois. C'est là qu'est un problème. Le problème est sur ma chaise dans ce temps-là, quand je pense que j'ai de la sagesse. Mais devant des circonstances difficiles, c'est vers lui que je dois me tourner. Et Dieu dit, demandez la sagesse. Prenez le temps de demander. Et elle lui sera donnée. Bien sûr, demander la sagesse, mais il faut qu'en même temps, je sois en train de continuer à me purifier, à éliminer les choses dans ma vie qui ne sont pas conformes à sa volonté. Il faut que ça aille en même temps. Je demande la sagesse pour savoir quoi faire, mais il faut que je sois en train de faire mon ménage spirituel dans ma vie, enlever les choses qui ne doivent pas être là, enlever les passions humaines, la colère, l'amertume, la convoitise, l'orgueil. Allez dans Jacques chapitre 4, s'il vous plaît. Juste un petit peu plus loin. Jacques, chapitre 4, verset 3. « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Mais vous, si je demande à Dieu simplement juste des choses pour mon plaisir à moi, pour satisfaire mes passions, tout ça, il dit non, vous demandez mal. C'est pas ça que vous devez demander à Dieu. Si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, des passions négatives qui sont contraires aux lois de Dieu. Et regardez ce qu'il dit au verset 4. Adultère que vous êtes, vous ne pouvez pas être à deux places en même temps. Vous ne pouvez pas penser servir Dieu puis en pratiquant les lois de l'adversaire, en agissant contrairement aux lois de Dieu. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Si vous aimez ce que le monde fait encore et que vous êtes enclin à le faire ou que si vous gardez certaines de ces choses-là que Dieu rejette, il dit vous êtes adultère parce que vous avez alliance avec un autre que le vrai Dieu. Vous avez alliance ou vous avez entente ou service envers quelque chose qui est négatif, qui est contraire à Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Mais vous, c'est un ou l'autre. Ça peut pas être les deux. On ne peut pas marcher avec Dieu puis marcher en même temps avec Satan. On ne peut pas pratiquer les lois de Dieu puis garder des choses qui sont de l'adversaire. Ça veut pas dire qu'on est capable de tout éliminer d'un coup, c'est pas ça. Mais si on garde, disons, volontairement des choses qui sont contraires aux lois de Dieu, il dit ça va pas. Vous êtes adultère. Vous allez à deux endroits. Vous avez une épouse puis vous allez ailleurs. Ça c'est pas ce que Dieu veut. Regardez le verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Et oui, c'est son Esprit Saint, c'est sa puissance qu'il a placé dans les baptisés qui ont reçu l'imposition des mains d'un ministre de Dieu. Il dit, c'est avec jalousie que Dieu considère le Saint-Esprit qu'il vous a donné. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, à ceux qui continuent de se dire avoir raison et qui ne veulent pas changer. » Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, à ceux qui reconnaissent leur incapacité, leur impuissance à régler tous les problèmes, leur difficulté à vaincre, mais qui demandent à Dieu son aide. Là, il leur accorde. Et regardez le verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » J'aimais ça parce qu'encore là, j'ai entendu dernièrement des phrases de M. Appartient qui disait « Satan ne peut pas vous forcer à faire des choses contraires aux lois de Dieu. Satan ne peut pas vous forcer. Vous vous laissez faire. Vous le laissez vous séduire. Ça, c'est une autre chose. Mais il ne peut pas vous forcer. Et c'est pour ça qu'il dit ici, soumettez-vous à Dieu, soyez proche de Dieu, suppliez-le de combattre pour vous, résistez au diable, puis le diable n'aura pas le choix. Il va falloir qu'il fuit. Comme c'est arrivé avec le Christ, quand il a été tenté, là, après qu'il a jeûné au désert et tout ça, à un moment donné, Satan n'a pas eu le choix de se retirer parce que le Christ a mis un mur. Verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Avez-vous l'importance de chérir les lois de Dieu et de rejeter tout ce qui est contraire à ces lois? S'approcher de Dieu, c'est faire sa volonté. De plus en plus, puis dans de plus en plus d'aspects de notre vie, au complet. Faire la volonté de Dieu, dans le fond, c'est imiter le prince de notre salut. Vous savez, c'est qui le prince de votre salut? C'est le Christ, qui est venu que donner sa vie pour vous personnellement. Le Christ a toujours fait la volonté de son Père. On voit dans Jean 4, verset 34, qu'est-ce que le Christ a dit dans ce passage-là. Jean 4, verset 34, le Christ a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et nous, en tant que les appelés maintenant, on doit avoir le même but que le Christ. C'est ça. On doit avoir le même but que le Christ. Et regardez, je reviens là-dessus. C'est très bien dit, c'est poétique, mais ça dit beaucoup. Le Christ dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ma nourriture à moi et la vôtre, ça doit être de faire la volonté de celui qui vous a appelé. Ça veut dire quoi, ma nourriture? C'est de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture, c'est ce qui me fait vivre. Ma raison de vivre maintenant, puisque Dieu m'a appelé et qui m'a montré à quel prix il m'a racheté, ma raison de vivre maintenant, ma nourriture, c'est de faire sa volonté. Comprenez-vous pourquoi je vous donne ce message-là aujourd'hui, qu'on voit un peu plus la dimension de ce thème-là qui est central à la Bible et qui est lié directement au sacrifice inouï du Christ lors de la Pâque. Faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et même, vous pourrez aller voir, mais dans Jean 5, 30, le Christ dit, « Je ne peux rien faire de moi-même. » Fantastique! Écoutez, c'est le Fils de Dieu, dans la chair humaine, qui dit, « Je ne peux rien faire de moi-même », qui avait besoin de compter sur Dieu pour réaliser ce qu'il a réalisé, pour accomplir ce qu'il a accompli, pour faire la volonté de son Père et accomplir son œuvre. À plus forte raison, vous et moi, qui sommes simplement des êtres humains, même qui avons péché, qui nous sommes affaiblis par nos péchés au cours de notre vie, nous avons besoin de la force de Dieu pour avancer. D'où le fait qu'on doit imiter le Christ. La Bible parle de revêtir le Christ, sa pensée, sa façon de réagir, sa façon de voir les choses. Et c'est pour ça qu'il faut, chaque jour, étudier la Bible de plus en plus profondément pour comprendre ce grand Dieu qui nous a appelés, comprendre sa mentalité, son plan, l'apprécier et en vivre. C'est notre chemin. D'ailleurs, écoutez, dans la prière modèle, ou l'exemple de prière que le Christ nous a donné, il y a un petit passage où il dit, demandez à Dieu de vous donner de faire sa volonté, c'est ça, hein? Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Il dit, vous demanderez à Dieu dans vos prières, dans vos mots, là, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, comme elle est dans les lieux élevés, au ciel, par les anges, par les 24 vieillards, les anges qui lui sont fidèles. Il dit, demandez que sa volonté soit faite sur la terre. Et c'est ce qu'on demande quand on dit chaque jour, avec de plus en plus d'intensité, que ton règne vienne, mets fin à toutes les misères, les souffrances, les atrocités qu'on voit, que ton règne vienne, donc que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que le monde soit libéré. Mais vous savez par qui ça commence, ça? Par celui ou celle qui fait la prière. Que ta volonté soit faite d'abord par moi, qui suis en train de te prier pour que ta volonté soit faite sur la terre. Moi, tu m'as appelé maintenant. Tu m'as donné un rôle à jouer maintenant. Et je dois me préparer pour ce qui vient parce que tu vas me donner la responsabilité et le bonheur d'aider les êtres humains bientôt après le retour de Christ. Alors, que ta volonté soit faite dans ma vie, dans ma pensée, dans ma façon d'agir. Que ta volonté soit faite. Et on peut demander ces choses-là particulièrement lors de la fête des pains sans levain ou dans la saison de la fête de la Pâque et des pains sans levain. Vous savez, la volonté de Dieu, elle se résume dans quelque chose de fantastique. Parce que la volonté de Dieu, et je termine là-dessus, c'est notre bonheur éternel dans sa famille.